With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bonjour à tous, c'est bien moi effectivement, Stéphane Moïsakis pour Steroids, le podcast. Et je suis donc effectivement avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Stéphane.
Ça va?
Ouais.
Alors aujourd'hui on va parler d'un film un peu spécial pour toi, qui est Le Magnifique.
Spécial pour moi, spécial tout court, spécial pour tout le monde, oui, parce que.
Oui, mais en fait, j'y pense parce que c'est vrai qu'en fait, à l'époque, tu me l'avais fait redécouvrir à la sortie du DVD.
Ah bon?
Voilà, ouais, ouais, tu me rappelles, parce que c'est un film que j'avais vu quand j'étais gamin, ouais. Et j'étais un peu passé à côté.
D'accord.
Et quand le DVD était sorti chez Studio Canal, et bien en gros, en fait, tu m'avais dit, mais attends, tu connais pas le Magnifique? Je t'avais dit, si, je l'ai vu une fois à l'époque, mais j'avais pas de grands souvenirs. Et en fait, je suis directement allé l'acheter le lendemain après qu'on soit tapé pas mal d'extraits. Sur le DVD chez toi à l'époque, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a fait un épisode de Steroids spécial, en fait, sur Belmondo, plutôt sur le côté cascade, tout ça, etc., etc. Et on n'a pas vraiment parlé de ce film. Mmh. On l'a vraiment évoqué comme ça, avec quelques images, un peu de musique. Et je me disais, pour un podcast, en fait, ça serait quand même sympa de l'évoquer, quoi.
De revenir dessus,
voilà.
Oui.
Parce que c'est un film un peu spécial, déjà... dans la carrière de Belmondo, dans la carrière de Broca, et même, j'ai envie de dire, dans la carrière du scénariste Francis Weber, qui le renie un peu. Quoi.
Qu'il a clairement renié, et puis aussi, tout simplement, dans le paysage cinématographique français. Parce que ça reste quand même une exception, c'est un film qui a pas mal essaimé, et de se dire que ça a pu exister à cette époque-là, c'est rétrospectivement étonnant, quoi, puisque... C'est quand même un film qui est ce qui se rapproche le plus d'une bande dessinée de Gottlieb en live, quoi. au sens où ça parodie tout un cinéma qu'on affectionne, donc cinéma d'action, d'espionnage des années 60. Voilà. Alors on resitue pour ceux qui peut-être qui connaissent le film, Le Magnifique. Donc c'est une comédie de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset, qui date de 73, qui raconte l'histoire a priori d'un super agent secret, Bob Sinclair, qui est un mélange donc de James Bond, OSS 117, SAS et toute la clique, qui vit donc des aventures fabuleuses, je crois que c'est à Acapulco, voilà, et dont on s'aperçoit qu'en fait il est une création, création d'un petit écrivain à la semaine, on va dire, qui s'appelle dans le film François Merlin, donc toujours interprété par Belmondo, et François Merlin, en fait, dans son appartement, galère pour essayer de boucler... cette nouvelle aventure de Bob Sinclair, et c'est un écrivain frustré, en fait, complètement agressé par le monde extérieur du Paris un peu grisâtre de l'époque, et on voit comment toute sa frustration, en fait, il la balance dans la création du personnage. Il est amoureux de secrètement, bien sûr,
sa voisine
qui est une jeune étudiante étrangère, et évidemment dans les bouquins qu'il écrit, elle devient la magnifique et plantureuse Tatiana, qu'il va séduire. Et donc ce jeu entre le quotidien un peu ardos de cet écrivain La Petite Semaine et le côté complètement exubérant des aventures de Bob Sinclair. Et c'est déjà un ressort comique certain, mais ce qui va se passer au fil de l'intrigue, c'est que François va jeter sa frustration sur son personnage. En fait, il va lui faire subir le pire au fur et à mesure de l'intrigue.
Parce qu'elle tombe vraiment amoureuse de son personnage et non pas de lui, en fait, qui est en face de lui, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, donc on en a un peu parlé vite fait tout à l'heure, en début de podcast, c'est d'abord à la base un scénario de Francis Weber.
Oui.
Donc sur une idée de Francis Weber, comme il en a eu pas mal, en fait, de ce type, c'est-à-dire, non pas forcément de ce type-là exactement, mais il a fait d'autres comédies. Bon, il y a évidemment les classiques qu'il a réalisés, hein, Les Fugitifs, La Chèvre, tout ça, avec toujours en fait quelque chose qui est finalement assez rare aujourd'hui dans la comédie française, en fait, qui est le concept qui va traiter vraiment jusqu'au bout. Et mais là, en fait, c'est ce qui est étonnant, c'est que c'est un film qu'il rejette parce qu'en fait, il ne s'entendait pas du tout avec De Broca, et notamment sur la partie réelle, c'est-à-dire du projet, parce qu'il y a une partie fiction, donc il y a une partie réelle. Et sur le fait, par exemple, que l'appartement de Merlin devait pas être aussi pourri que le voulait De Broca. Il voulait quelque chose d'un peu plus sophistiqué, 70s, comme ça se passe, ça a été tourné en 73. Et c'est là, en fait, où justement De Broca est allé chercher Jean-Paul Rapneau pour réécrire le scénario.
Alors, de ce que j'ai compris, là où ça bloquait, c'était sur la question de la romance, puisque Weber... selon De Broca, Weber a toujours eu un petit problème avec les personnages féminins, et donc il n'en était pas question, en fait, dans son script. Lui, c'était vraiment les affres de la création. Et pour Weber, effectivement, c'était un projet qui lui tenait à cœur, parce que c'était lui qui mettait en scène, quoi. C'était lui, en tant que scénariste, en train de galérer à essayer de construire un récit dans un monde fictionnel, et donc de se confronter à ce qu'il était dans la vie réelle et comment lui se projetait dans ses personnages. Mais l'aspect roman, c'était pas là. Et donc c'est ça que De Broca et Rapneau, a priori, ont développé. Mais il y a autre chose qui est venue foutre la merde, c'est que Weber, en fait... à la première du film, s'est barré au bout de la deuxième bobine quand il a compris le type d'humour qui était en jeu, parce que l'humour chez Weber, c'est un humour de situation, c'est une véritable mécanique humoristique, en fait. Alors que l'humour du magnifique, il y a toujours cette mécanique, elle est là, il y a certaines scènes qui font marrer parce que Weber les a écrits comme ça, mais il y a aussi tout un gros délire potache qui est pas du tout du Weber.
Par exemple, il y a une scène, moi je me rappelle, que, pour revenir justement à ma redécouverte du film il y a une vingtaine d'années, c'était toi qui me l'avais montré, tu m'avais dit, mais tu te rappelles pas de cette scène, en fait, c'est le moment où, je crois que c'est le plombier ou l'électricien qui est joué par Jean Lefebvre, qui arrive et dans l'appartement qui est pourri, qui est délabré, et qui lui dit, ah, mais moi je peux pas travailler si...
C'est du triphasé.
C'est du triphasé, je peux pas travailler. Et en fait, pour se venger... Le personnage de Merlin l'écrit dans une scène d'action sur la plage, et il le fait dégommer à la mitraillette, et donc tu te retrouves avec Jean Lefebvre quand même, quoi, qui se retrouve à plein d'impacts de balles et qui explose
à la Pékinpa,
voilà, c'est ça, et qui tombe dans la flotte comme ça, quoi.
Mais
et
toujours dans son costume de plombier, c'est-à-dire évidemment la scène est drôle parce que on a cette séquence sur la plage qui est typique d'un James Bond où ils se font attaquer par des mecs habillés en noir, etc., et au milieu débarque effectivement le pauvre Jean Lefebvre qui sait pas ce qu'il faut là et qui se ramasse un impact de balle. D'ailleurs, d'après Jean Lefebvre, ça a été la pire peur de toute sa carrière, en fait, parce que c'était des techniciens mexicains qui l'ont préparé, et donc ils ont passé la matinée à lui mettre les explosifs, et ce qu'il raconte, que avant la prise, au moment où il s'apprêtait à tourner, il a vu le responsable des cascades faire le signe de croix, en fait, tu vois, derrière la caméra, et là il a demandé à ce qu'on arrête, quoi, et il a dit non je veux pas le faire et tout ça, et en plus Belmondo était mort de rire de le voir flipper, tu vois, et donc du coup De Broca a essayé de le rassurer en lui disant que c'était un type qui était habitué à travailler avec les Américains, en fait, sur ce genre de films et des westerns de prestige et tout ça. Donc ça s'est très bien passé, les impacts de balles. Mais si tu regardes, effectivement, en plus le ralenti, il aide à ça. Tu vois que Lefebvre, effectivement, il est bien stressé dans cette séquence-là, quoi.
Mais il y a en fait, il y a un jeu entre la réalité et la fiction dans la mise en scène de Broca qui est alors, peut-être inédit, on va dire, dans le cinéma français, mais en tout cas certainement dans le cinéma français de l'époque, qui est que, en gros, dans par exemple cette scène de fusillade, c'est la première fois qu'il y a une irruption du réel, entre guillemets, dans la fiction, puisque ça commence vraiment par la fiction. Il y a cette femme de ménage, en fait, qui est en train de passer l'aspirateur
Monique Tarbes, regrettée Monique Tarbes,
qui est une actrice, en fait, qu'on a fait venir. Une journée.
Oui, juste pour ce plan.
Pour ce plan. Donc, elle a pris l'avion le matin, elle est repartie le soir. Ouais. Et voilà, il y avait quand même un souci d'être cohérent dans la façon de plonger le spectateur dans ce récit-là.
Au niveau de la mise en scène, évidemment, c'est là où on regrettera à tout jamais le De Broca de l'époque, quelqu'un qui savait très bien où il allait. Alors déjà, De Broca, ce n'était pas son premier film, entre guillemets, d'action. Il y avait quand même les tribulations d'un Chinois en Chine et l'Homme de Rio... Avant, mais j'ai jamais, je l'ai jamais entendu parler de storyboard par exemple, mais je me dis qu'il a forcément dû y avoir une préparation monumentale, puisque donc il y a cette idée de raccorder les plans entre ce qui se passe dans la fiction entre guillemets et ce qui se passe dans le réel entre guillemets. Et donc effectivement, Monique Tarbes, c'est le premier moment où en tant que spectateur, on comprend. Qu'on est dans une fiction, c'est-à-dire que on a cette scène de plage où Sinclair et Tatiana sont en train de se défendre. C'est, on est au-delà de la caricature, hein, parce que je crois que lui, il est plus ou moins, non, il est pas torse nu, mais,
non, mais
il fume un cigare. Enfin, il est en train de tirer avec deux mitraillettes tout en souriant, et, etc. Bon, donc on comprend qu'on est dans un film hyper caricatural, et donc il y a cette nana en plus. Que le public français de l'époque connaissait son visage, parce qu'elle faisait beaucoup de pubs, Monique Tarbes, qui arrive avec son aspirateur sur la plage, quoi. Et elle passe l'aspirateur sur la plage et elle avance, la caméra la suit, alors qu'autour d'elle, il y a des tas de mecs qui sont en train de mourir, tombés comme des mouches. Et elle ouvre une porte qui est sur la plage. Et de l'autre côté de la porte, c'est l'appartement parisien. Et en fait, elle vient déranger le. Voilà. Bon. Et c'est là où on rentre dans le concept du film. Donc ce moment est très important. Au passage, c'est du fucking Satoshi Kon bien avant l'heure, quoi. C'est justement dans ce jeu de transition invisible entre différents niveaux de réalité, différents niveaux psychiques, en fait. Parce que, en gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que. Ce qu'on a vécu en tant que spectateur, c'est ce qu'est en train de vivre le perso, quoi. Il était bien là-dedans dans sa scène d'action, et tout d'un coup, il y a le réel qui le rattrape. Et donc, ouais, dans le film, il y a plein d'effets de cet ordre-là qui sont, j'imagine, qui ont dû demander une réelle préparation visuelle, en fait, parce que je vois pas comment il aurait pu le faire ou juger, quoi, si tu veux.
Est-ce qu'on... Le cinéma d'action français, c'est quand même quelque chose d'assez rare aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, il y en avait quand même un minimum. Il y avait très sérieusement des OSS. Mmh. Est-ce que tu penses, en fait, qu'avec le recul, en fait, un film comme Le Magnifique a quand même finalement indiqué une certaine trace ? Moi, je pense. En le revoyant comme ça, là, récemment, pour enregistrer ce podcast, je me dis, bon, c'est pas possible. Je pense pas que McTiernan ait vu le film. Mais il y a quand même des éléments à la Last Action Hero, en fait, qui étaient déjà plus ou moins présents avec une vingtaine d'avance, quoi, en fait, sur Last Action Hero, une espèce de façon de parodier de manière outrancière, en fait, le cinéma d'action de la décennie précédente.
Oui.
Voilà, il y a un peu de ça. Il y a, je pense aussi à la façon dont OSS 117, les films d'Azanavicius, ont délibérément, en fait, abandonné. La franchise d'origine, en fait, pour la transformer en parodie directe, en fait, en comédie, quoi.
Oui.
Sans que forcément le spectateur des années 2000, en fait, ait le tout simplement, enfin, la référence, en fait, personne, enfin, OSS 117, ça passe plus à la télé depuis longtemps. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque part, ça a laissé une certaine trace, en fait.
Ah oui, très
Bob Sinclair, par exemple, on sait que c'est le pseudo d'un... Ouais. Voilà, c'est ça,
le DJ Bob Sinclair, son nom vient de là, effectivement, mais c'est évident que l'humour des nuls, il s'est en partie inspiré de ce... C'est la façon de jouer, en fait, avec les tropes de la culture populaire qu'on a en France, elle vient clairement du Magnifique, mais elle était déjà en germe dans le cinéma de Broca avant. Parce que De Broca a toujours aimé, on va dire, les fantaisies enfantines, on va dire. Il y avait déjà beaucoup de Tintin dans L'Homme de Rio et Les Tribulations d'un Chinois en Chine.
Mais ça, c'était quand même relativement premier degré. Pas premier degré en termes d'humour, mais premier degré en termes de narration, parce que ça raconte et en fait ça filait droit.
Oui,
là,
mais
c'est beaucoup plus.
Oui et non. Dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine, au fur et à mesure, quand le héros est content de lui, il a les cheveux courts, et dès qu'il déprime, il a les cheveux qui deviennent longs, tu vois. Donc c'est. Il jouait complètement sur les niveaux de perception et de réalité et tout ça. Il avait déjà un regard. Distancé, réflexif, en fait, sur le matériau. Il a jamais fait des films d'aventure plein au sens du terme, tu vois. C'est pas le salaire de la peur, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours été dans une forme de poésie. D'ailleurs, je pense que ça a été un moment important dans sa carrière. Il a fait ce film dans les années 60 qui a été un énorme échec en France, où sans sou personne l'a vu. Le Roi de Cœur, qui a été.
On en avait déjà parlé dans un podcast.
Ouais, tout à fait. Voilà.
Sur Capture.
Qui donc est considéré comme un de ses classiques aux États-Unis, son classique même. Et je pense qu'il en a toujours un peu voulu à la France d'avoir de pas avoir accepté cette partie de bouder le film, en fait. Parce que la poésie qui est à l'œuvre dans Le Roi de Cœur, c'est vraiment celle que tu retrouves dans tous ces films, y compris Le Magnifique. Cette idée que, en fait, ben, avoir un grain de folie, c'est juste pouvoir être en mesure de regarder le monde avec plusieurs jumelles à la fois, tu vois. Et Le Magnifique, c'est ça. Mmh. On est littéralement dans le psychisme d'un mec qui passe d'un monde à l'autre, quoi. Donc ça peut pas être un film d'action. Normal, sérieux, plein au sens du terme, mais par contre il a les compétences techniques pour le faire, et c'est là où ça devient surprenant. Il aurait pu faire, je pense, toi, Weber, il voulait faire le film, c'était un de ses projets à lui, il aurait aimé pouvoir le réaliser, il n'avait pas encore à l'époque l'assise financière pour pouvoir devenir réalisateur, mais ça fait partie des trucs qu'il a regretté.
C'est quelque chose qui, dans sa carrière aussi, était assez fréquent à l'époque. C'est-à-dire que même L'Emmerdeur, par exemple,
oui, il voulait le faire. Ouais.
De Molinaro, il en était assez déçu aussi. Enfin, pas ouais, déçu, ouais. Mais en tout cas, il l'a cherché à le refaire. Et d'ailleurs, il l'a refait ouais. Il y a une dizaine d'années, je crois.
Mais tu vois, il n'a pas refait Le Magnifique parce que je pense qu'il a tout simplement. Weber, il n'a clairement pas le talent technique pour pouvoir même chorégraphier des scènes d'action comme c'est le cas ici. Il n'a pas ce côté, encore une fois. L'excessif, en fait, c'est poétique. Et on le dit pas assez, mais là, on est en train de faire un podcast qui s'appelle Stéroïdes, qui est consacré au cinéma des gros bras. Tu vois, ben, en fait, c'est un cinéma poétique à sa façon. Et, Weber, il aurait jamais eu l'idée de que son personnage tire un coup de feu dans la tête d'un mec et que la cervelle du gars saute pour aller tomber dans une assiette. Tu vois, enfin, il faut penser comme
Sauf
un gamin
ça,
de 6 ans pour.
C'est assez intéressant parce que c'est une idée du monteur. Ouais. Que De Broca s'est empressé de récupérer, hein, parce que ça lui a tout de suite très énormément plu, quoi. Mais c'est le monteur qui lui a suggéré ce raccord, en fait,
avec l'assiette, ouais.
Séquence avec l'assiette, quoi. Ouais. Et du coup, ils se sont empressés sur l'affaire-là. Mais après, comme d'habitude, en fait, un réalisateur, surtout en France, en plus, est maître plus ou moins de son film. Donc.
Oui, voilà. Mais parce que ça correspond, encore une fois, à sa façon de penser. On parle bien du De Broca de l'époque. Hein, ça va plus être le cas dans les années qui vont suivre. Quoi. Mais donc l'impact, le film, il a essaimé beaucoup. Donc on a parlé des nuls, on a parlé donc de Zanavicius, qui est très clairement dans la mouvance du Magnifique. Alors c'est d'autant plus drôle que le Magnifique. Le personnage de Bob Sinclair était déjà une parodie d'Hubert de Lamarthe, ouais. C'est ça. Mais aussi, ça montre que, justement, la difficulté qu'on a en France à ne pas regarder ces genres pulp avec une certaine condescendance, une certaine méfiance. Il fait du pulp, il le fait bien. Le repère du méchant, c'est un temple aztèque. On se trompe pas dans les bonnes références, quoi. Mais à chaque fois, on prend sa distance, on fait un pas de côté. Et ça, c'est resté dans la culture française, cette idée qu'on peut pas aborder le genre sans faire un pas de côté, en étant à 100% dedans. Aux États-Unis, donc quand ils font un film comme Last Action Hero, c'est immédiatement pris par la presse de l'époque comme un film européen dans l'esprit, justement à cause de ce pas de côté, en fait.
Oui, mais le truc, c'est que ce qui est assez intéressant aussi dans Last Action Hero, je pense, c'est que Mike Tiernan, on le sait, hein, on a déjà fait un podcast dans Capture sur lui, on en fera probablement d'autres. On en reparlera sûrement, probablement même un épisode de Stéroïdes dessus un jour, un vidéo, je veux dire. Mais en fait, c'est un réalisateur intellectuel. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle il appelle, quand la mort apparaît dans Last Action Hero, qu'elle vient du cinéma, qu'elle vient de la fiction, c'est Bergman, c'est pas un autre film, tu vois. Et donc, je pense que c'est aussi, en fait, cette image pour les Américains, en fait, qui transforme. Et qui, d'ailleurs, en fait, la critique a assez rejeté le film, hein, à l'époque. Hein. On te rappellera que, comment dire... C'est un film qui a été nommé aux Radio Awards.
Pour ce qui est de Last Action Hero, et d'ailleurs, Le Magnifique n'a pas été très bien accueilli non plus.
Mais ça a été un succès, par contre.
Un succès. Je crois que c'était le septième plus gros succès de l'année, un truc comme ça. Mais son humour, justement, son humour potache, il n'était pas... c'était pas l'humour français de l'époque, quoi. Il y a pas mal d'anecdotes de tournage où ils ont galéré avec Jacqueline Bisset parce qu'elle comprenait rien à ce qu'elle était en train de faire. C'est-à-dire ce côté en faire jouer sérieusement comme si elle était vraiment dans un James Bond pour que ce soit drôle, la meuf, elle ne voyait même pas ce qu'il y avait de drôle. Le côté « j'ai eu peur de vous rater, je n'ai pas trouvé le pain de campagne ». Tu vois, parce qu'ils sont censés avoir un code secret pour se reconnaître au début du
trouver
film.
Trouver un pain de campagne en plein milieu du Mexique.
Belmondo qui lui demande « mais qu'ai-je donc de si effrayant ?» en enlevant sa veste et il a 50 flingues en dessous, etc. Bon. Elle était complètement à côté de la plaque, mais limite bête, quoi, si tu veux. Donc, mais encore une fois, parce que cet humour potache, c'est un humour référentiel, c'est un humour de geek quelque part. Nous, on est habitué à rire des tropes de la culture pop, mais les gens qui consomment peu de culture pop, qui sont peu dedans. Quand ils voient ces tropes, eux, ils font pas la distinction avec le vrai. Ils font pas la distinction entre la parodie et le réel. C'est pour ça que les films des Zaz, par rapport entre les premiers et les derniers, dans les derniers, au fur et à mesure de leur carrière, ils ont été obligés d'expliciter leurs gags. Alors que quand ils faisaient les Airplane ou Top Secret, je sais pas si tu te souviens du commentaire audio sur le DVD, c'est absolument déprimant parce qu'ils passent leur temps à dire. Mais enfin, mais qu'est-ce qui nous a pris de faire ça? C'est incompréhensible. Mais c'est ça qui est génial dans Top Secret, c'est que c'est incompréhensible, justement, si t'as pas la maîtrise des codes, des références. Il y a des gens qui regardent ces films et qui pensent que c'est sérieux.
Après, à la décharge, pas de Bisset, mais en fait aussi de la réception du film à l'époque, c'est que c'est finalement, malgré tout, c'était quand même assez rare en fait d'avoir le contre-exemple à cette époque-là, en fait, dans le cinéma français, c'est-à-dire vraiment
le magnifique, c'est un contre-exemple, alors que l'exemple n'existait pas vraiment. C'est-à-dire qu'on avait eu les OSS 117 dans les années 60.
James Bond existait. James Bond existait. Bissell a tourné avec
Steve McQueen
dans Bullitt. C'est quand même un film très premier degré, ça aussi. Donc voilà, je pense que puis l'aspect complètement excessif du magnifique, il se pose en fait. Déjà, il est explicité dedans. Ce qu'on dit, par exemple, quand son fils vient le voir et qu'il lui dit, tu sais, il faut de la violence. Papa, il faut de la violence, en fait, sinon ça vend pas. Et d'un seul coup, c'est là où il part en sucette et qu'il repeint les murs. D'où la scène de la cervelle, quoi. Mais c'est explicité, mais c'est vrai que par contre, après, il faut avoir une vision quand tu es en train de tourner du film de ce que c'est. Aujourd'hui, ce qui est étonnant avec les As, c'est qu'ils se posent ces questions-là, c'est qu'en fait, ils ont eu des succès. Je pense que leur problème, c'est sur Top Secret, c'est que le film s'est planté.
Oui.
Et que c'est là où ils se sont dit, bon, faut être un peu
La série télé Police Squad,
qui s'était complètement planté.
Qui ne marchait pas parce que les gens essayaient de suivre l'enquête policière. Donc, donc voilà, cette prise de distance par rapport au code, elle ne concerne en fait qu'un certain public que j'appellerais public sophistiqué en termes d'image, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de consommer ce genre de fiction et qui du coup sont en mesure de reconnaître immédiatement le trope et donc du coup d'en rire. Quand les nuls ont commencé à faire Objectif Nul, qui est vraiment pour moi ce qui est le plus proche du magnifique, c'est-à-dire on te joue sérieusement des scènes, mais toi tu comprends immédiatement que c'est le gag parce que tu connais tu as la référence. Objectif Nul, c'était pas le carton qu'ils vont faire des années plus tard, quoi. C'était un truc encore.
De la peur, tout ça, ouais.
C'était encore une niche, mais une niche qui s'adresse effectivement à un public entre guillemets sophistiqué.
Pour terminer, c'est quoi ta scène préférée dans ce film, la plus emblématique? Celle qui représente pour toi, tu parlais de Gottlieb, on n'a pas tellement parlé de ça, mais tu parlais de Gottlieb live,
ouais.
Ce qui est quand même effectivement assez rare même dans le cinéma français, encore une fois, d'avoir cet état d'esprit, de le prendre, quoi, et d'aller jusqu'au bout. C'est quoi ta scène préférée?
Je ne peux pas dire que j'ai des scènes préférées dans Le Magnifique, mais bon, c'est vrai que la scène dont on a parlé sur la plage avec Monique Tarbes, c'est quand même un grand moment, quoi. C'est surtout pas, c'est des répliques en fait qui sont restées, et surtout des répliques qui, prises à part, sont pas drôles du tout, mais qui moi me font rire par rapport à ce qu'elles évoquent dans le film. Il y a notamment son personnage de son patron, enfin de son éditeur, qui dans la fiction devient le méchant Karpov. Lui me fait hurler de rire en fait. C'est un comédien italien qui s'appelle Vittorio Caprioli et qui était doublé par Georges Aminel en France. Donc déjà, ça marche bien parce que c'est par accord avec ses lèvres. Donc tu as vraiment l'impression de voir un film américain. Voilà. Et l'acteur Georges Aminel lui a donné des intonations absolument extraordinaires. Et donc, quand on lui remet son manuscrit, qui est pas assez épais, quoi, qui balance « Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie ?» en jetant le papier comme ça sur le côté, ou quand il promet, sous l'identité de Karpov, Il promet de torturer Jacqueline Bisset en disant « Je vais d'abord les couper le sein gauche ». Bon, ben voilà, ce genre de réplique comme ça, prise à part, me font toujours, toujours sourire. Belmondo, qui est clairement en train de répéter ce qui va devenir Poupoum Badaboum dans les années suivantes, c'est vraiment le magnifique qui a lancé le truc.
Ouais, quoi. Même si on peut pas vraiment dire que c'était une parodie de son personnage dans l'absolu, puisque il était déjà assez fantasque.
Mais,
en fait.
Mais le jeu qu'il a dans ces scènes-là, quand il décroche le téléphone en disant yes, no, ok, et qui raccroche, ça c'est du Belmondo qu'on va retrouver chez Lautner des années plus tard. Quoi. Donc ouais, c'est beaucoup, beaucoup de répliques en fait, le magnifique.
Ok, bah, écoute, merci en tout cas d'être passé pour parler du film.
Un plaisir.
Voilà, je vais juste préciser.
J'en profite parce qu'à l'époque justement de ce fameux DVD, je l'avais chroniqué dans Mad, et je me moquais un peu du commentaire audio, parce que donc il y avait un commentaire audio de Philippe de Broca, qui était quelqu'un qui apparemment n'avait pas très envie de se prêter à cet exercice.
Il avait un peu lâché l'affaire. Ouais. Aussi, déjà.
Et en fait, il était assisté d'un jeune homme qui essayait de le faire parler. Parce qu'il y avait des moments dans ce commentaire audio, il y avait grand silence et on sentait ce jeune homme qui faisait un effort pour que De Broca dise quelque chose. Et à un moment donné, De Broca l'envoie vraiment bouler, quoi. Et ça m'a... Bon, je m'étais mis à la place du pauvre gars, quoi. Et donc, je l'avais noté dans ma critique et ça n'a pas du tout plu à ce jeune homme qui s'appelle Jérôme Vibon, que on a été amené à connaître depuis et qui fait un énorme boulot par rapport à tous ces films des années 60-70. Un boulot d'archiviste, de travail sur les making-of,
ouais,
etc.
Voilà,
d'historien, quoi.
Ouais.
Donc, désolé, avec 20 ans de retard, désolé pour de t'avoir un peu chambré, Jérôme. Et encore merci d'avoir obligé De Broca à faire un commentaire audio.
Voilà. Et pour ma part, moi, je vais vous inviter, en fait, à jeter un œil sur, si vous ne l'avez pas déjà fait, en fait, sur l'épisode spécialement dédié à Jean-Paul Belmondo, qui était écrit par notre ami Arnaud Bordas, épisode de Stéroïdes, où on revenait tout simplement sur ce qui faisait la qualité de son travail dans le cinéma français.
Ouais. Mmh.
Merci à tous.
Merci Steph.
Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, SoundCloud, YouTube. YouTube, vous pouvez donc voir les vidéos dont on a parlé, sur Deezer, sur Spotify. Le mot-clé, c'est Capture Mac, comme toujours. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.